Destination Jeux Olympiques sur Radio Plus. Une matinée spéciale pour s'imprégner des Jeux Olympiques autrement, avec ceux qui les font et ceux qui les ont fait. Sportifs, arbitres, responsables institutionnels, responsables économiques, nos invités vous racontent leurs Jeux Olympiques. Une émission animée par Julien Maille et Thierry Tempé. Et quelle autre musique que celle des chariots de feu pour Vangelis, pour lancer cette émission spéciale Jeux Olympiques. Les chariots de feu, film sorti en 1981 qui nous ramène à l'époque en 1924 lors des Jeux Olympiques qui s'est déroulé cette année-là à Paris et dans lequel, dans ce film, un athlète anglais juif doit surmonter l'antisémitisme, le mépris de classe et affronter un athlète protestant. Un film qui nous rappelle aussi que les Jeux Olympiques sont parfois un reflet sur le monde, sur ses tensions parfois géopolitiques, raciale ou religieuse. Les Jeux Olympiques, théâtre d'exploits sportifs, mais aussi de déceptions, de rencontres humaines et de souvenirs impérissables. 100 ans plus tard, les Jeux Olympiques reviennent à Paris et à 91 jours précisément des Jeux Olympiques, ce matin jusqu'à 13h, nous sommes en direct pour vous faire redécouvrir ces Jeux Olympiques autrement, mais aussi les Jeux Paralympiques, ne les oublions pas, avec nos invités sportifs, anciens sportifs qui nous raconteront ces Jeux Olympiques de l'intérieur, mais aussi arbitres avec dans quelques instants notre invité Yann Cusack, juge arbitre de tennis, responsable institutionnel ou responsable économique. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord en studio Thierry Tempé qui va co-animer avec moi cette émission. Bonjour Thierry.
Salut Julien.
Et nous accueillons également Arnaud Seillard qui est chargé de mission au sein du comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France. Bonjour Arnaud.
Bonjour, merci de l'invitation.
Et avec plaisir.
Je sais un petit truc, c'est Arnaud Seillier.
Seillier, pardon. Excuse-moi, je t'ai mal relu.
C'est de ma faute.
Eh bien, je vais me relire mieux cette fois-ci et nous accueillons donc Arnaud Seillier. Et avant de parler du programme qui nous attend, Thierry et également Arnaud, cette question qui sera notre fil rouge et que je poserai dans quelques instants à notre premier invité par téléphone, Yann Cusack. Si je vous demande votre premier souvenir marquant des Jeux Olympiques, quel est-il ? Le premier exploit sportif, la première défaite marquante, la première image qui vous a marqué de ces Jeux Olympiques, Arnaud Seillier ?
Alors je vais parler de ma discipline. Évidemment, je travaille au comité régional olympique et sportif, mais je fais du sport et du tennis de table. Et moi, quand on parle des Jeux Olympiques, forcément, je pense à Jean-Philippe Gatien, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Barcelone, médaillé d'argent, pardon. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, et évidemment c'est un grand souvenir pour tous les pongistes, la première médaille pour la discipline.
Thierry ?
Alors, je profite de l'intervention de Monsieur Seillier pour avoir une pensée, parce qu'on parle de tennis de table, pour avoir une pensée pour le regretté Jacques Secrétin qui n'a pas été médaillé olympique, mais qui est un nordiste, et tu sais très bien.
Et qui était de Béthune, je crois.
De Carvin.
Carvin, oui, voilà. Il est même encore plus près.
Qui a d'ailleurs failli jouer au Racing Club de Lens comme footballeur, comme quoi il avait énormément de qualité. moi, mon premier souvenir, oui, je pourrais en citer plein, mais celui qui me vient en premier à l'esprit, c'est la performance de Carl Lewis en 1984, parce que j'ai suivi ces jeux, j'ai suivi les jeux de 76 évidemment, de 80 pour des raisons particulières, mais 84 parce que d'abord il y avait des footballeurs et on en parlera tout à l'heure, des footballeurs lensois qui étaient là-bas à Los Angeles, mais c'est la performance de Carl Lewis, le premier athlète à descendre sous les 10 secondes, là le jour des jeux quoi. Et il bat les records en longueur de Bob Mimoun, il bat des records, je crois que c'est 4 ou 5 médailles, et c'était jamais vu quoi. Carl Lewis, et puis en plus quel bel athlète quoi, c'était quelqu'un qui nous a tous donné envie de nous lever, même si j'ai toujours une préférence pour nos athlètes français, mais Carl Lewis, il nous a fait lever de nos fauteuils à 3h du matin quand on regardait sur la RTBF.
Et pour ma part, eh bien,
j'allais te poser la question.
J'attendais la question avec impatience. Alors évidemment, les souvenirs de Jeux Olympiques, ils remontent à récemment pour moi, parce que les Jeux Olympiques.
Parce que t'es plus jeune.
Oui, parce que je suis plus jeune. J'osais pas le dire, mais surtout, étonnamment, autant je suis marqué évidemment par tout cet esprit olympique, autant j'ai parfois un peu de mal à me poser devant le canapé pour regarder les épreuves sportives, tous les sports. sport ne me touche pas non plus, mais il y a quand même ces Jeux Olympiques de 2016 à Londres. Déjà parce que j'avais à l'époque une image assez poussiéreuse des cérémonies d'ouverture, et cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée sur la Tamise avec tous les clins d'œil à la culture et à la pop culture anglaise, tous ces grands artistes de la musique qui se sont réunis, ça m'avait déjà fait quelque chose. Et puis en zappant, je suis tombé sur le tournoi olympique de judo, et j'ai découvert cette judokate qui s'appelle Autumn Pavia, qu'on ne voit plus en équipe de France, et elle m'a donné envie de me remettre au judo, et je m'y suis remis quelques années après. Voilà, elle m'a procuré des émotions comme d'autres, et ça a généré une envie de prendre une licence, et on en parlera évidemment avec Arnaud Cellier, mais cet effet JO chez les licenciés, il s'en ressent. Alors, ça va être un petit peu ça, le... Oui, Thierry.
Est-ce que tu veux que je te raconte une petite anecdote sur Carl Lewis? Alors, Carl Lewis, après les Jeux Olympiques de 84, il a été drafté en basket par les Bulls de Chicago. Et arrivé en cinquième position, il n'a pas été retenu par les Bulls de Chicago, qui ont préféré retenir un certain Michael Jordan.
Et ça, c'est pas rien. Ça a peut-être été un meilleur choix sur le plan du basket. Et ben, ça va être ça un peu cette émission, des anecdotes, des témoignages croisés avec tous nos invités. Justement, je vais accueillir notre premier invité par téléphone. C'est un fou de sport. Il en a fait en partie son métier, lui qui est speaker des équipes de France de tennis notamment. Le tennis, c'est son sport de prédilection. Il est régulièrement juge arbitre de Roland-Garros, il a le statut de juge arbitre international. Il est de notre région et on est évidemment très fiers que la région soit représentée, parce qu'il officiera comme juge arbitre aux Jeux Paralympiques. On a le plaisir d'accueillir Yann Cusack. Salut Yann.
Oui, salut Julien, bonjour à tous.
Bonjour.
Et ravi de t'accueillir sur l'antenne de Radio Plus. Alors, cette question fil rouge que tu as déjà entendue puisque tu étais avec nous par téléphone, ton souvenir des Jeux Olympiques marquant, quel est-il ?
Bah moi aussi c'est Carl Lewis en 84, tout jeune spectateur, j'étais ébloui effectivement par ses performances. Donc premier souvenir, ouais, la magie des Jeux de Los Angeles de 1984. Et puis après d'autres souvenirs qui sont venus ensuite, car j'ai eu chance de participer à un certain nombre de jeux. Mais voilà, la première image c'est vraiment Carl Lewis.
Et tu le dis, hein, tu as participé à des Jeux en tant notamment que juge arbitre. Tu seras également juge arbitre aux Jeux Paralympiques sur cette Olympiade 2024. En tennis, le rôle du juge arbitre, quel est-il ?
Alors le juge arbitre, c'est le responsable sportif de la compétition. Il n'est pas sur le terrain. C'est celui qui fait les tableaux, qui fait les programmations des matchs, qui manage les arbitres. Donc j'ai coutume de dire, le juge arbitre, c'est qui joue contre qui, à quelle heure, sur quel court, avec quel arbitre. Voilà, le responsable sportif de la compétition, tandis que l'arbitre compte les points, dirige un match sur la grande chaise, et les juges de ligne sont tout autour du court et annoncent les bonnes et les balles fautes, en gros. Voilà.
Alors justement, sur un tournoi de tennis du Grand Chelem, une compétition tout au long de la saison, les choix des participants se font en fonction du classement, en fonction de l'état de forme. Il y a aussi parfois des sportifs qui sont invités par le biais des wildcards. Aux Jeux Olympiques, ça se passe comment, la sélection des athlètes ?
Alors ça se passe de la façon suivante. D'abord, on va prendre le classement du 10 juin, le lendemain de Roland-Garros. Et puis... Et donc il y a 4 athlètes maximum par pays et par sexe évidemment, puisque c'est des tableaux de 64. Donc voilà, on regarde le classement mondial, on regarde un nombre limité de représentants par pays, parce que derrière ça évidemment il y a l'universalité du sport, et puis un certain nombre d'invitations, des choses assez techniques, d'invitations pour passer de 56 joueurs sélectionnés à 64, 8 invitations, un certain nombre de critères pour faire participer des athlètes de pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le tennis, ou faire entrer des athlètes qui n'ont pas le classement suffisant, mais qui pour des raisons des anciens vainqueurs de Grand Chelem aussi, dont le classement, suivez mon regard, dont le classement pourrait pas permettre de rentrer dans le tableau, d'être invité. Voilà.
Bah oui, il y a forcément aussi la volonté d'honorer ces grands champions. Et puis des grands champions, on en retrouve aussi du côté du tennis fauteuil, puisque tu vas être le juge arbitre de ces Jeux paralympiques. Parle-nous un petit peu justement du profil de ces athlètes et qui a ses chances peut-être de médailles.
Des Jeux paralympiques, hein, c'est ça ?
Oui, des Jeux paralympiques.
Alors, effectivement, il y a une belle représentation française, et puis les les spots seront tournés un petit peu vers la, notamment l'équipe masculine, puisqu'elle est entraînée par un certain Yannick Noah, hein, l'équipe de France masculine, avec avec des athlètes qui ont brillé au jeu. Je pense notamment à Stéphane Oudet, mais bon, les sélections sont pas encore faites. Il y a quelques Françaises aussi, Pauline Desrouledes, qu'on voit et qu'on a vu, qui a été mise en avant avec la présentation des tenues des athlètes. Donc voilà, les Japonais en tennis fauteuil sont très très forts, comme les Néerlandais. Donc voilà, ça va être une belle compétition, précédée évidemment quelques semaines avant par l'épreuve de tennis fauteuil de Roland Garros, car quand au tournoi Grand Chelem de Roland Garros, il y a une épreuve de tennis fauteuil, et donc les athlètes en découdront là pour en prélude un mois après, enfin 2 mois après, aux Jeux paralympiques. Voilà.
Et là aussi, cette épreuve de tennis fauteuil à Roland-Garros impacte la sélection des athlètes retenus pour les Jeux paralympiques ?
Alors le classement pour les athlètes paralympiques est moins mouvant que celui des athlètes olympiques. Mais oui, il y a des points à aller chercher pour le classement mondial. Et donc à l'issue de Roland-Garros, le classement bouge un petit peu. Et donc les dernières places peuvent aller se chercher avec les résultats de Roland-Garros, oui.
Alors, je me suis laissé dire que c'était pas ta première Olympiade. Comment es-tu rentré de l'autre côté, finalement, non plus celle de spectateur, mais d'acteur des Jeux Olympiques et Paralympiques ?
Alors, ça a commencé en 2004. J'ai eu la chance de faire les premiers JO en 2004 dans l'organisation, dans le staff juge-arbitrage, parce que j'étais dans le staff juge-arbitrage de Roland-Garros. En fait, les arbitres qui sont sélectionnés pour les Jeux Olympiques ou Paralympiques sont ceux qui officient, qui ont la chance d'officier sur leur championnat du monde le plus souvent. Alors en tennis, on n'a pas de championnat du monde, on a 4 grands chelem. Donc le fait d'être français, c'est une chance. Ça donne plus de chances de bosser sur le grand chelem français qui s'appelle Roland-Garros. Et étant dans ces circuits-là depuis longtemps, j'avais pu être sélectionné. Donc en 2004 à Athènes, puis en 2008 à Pékin. Et il faut préciser, hein, Julien, que pour nous aussi, les arbitres, il y a des sélections, on pose candidature et les places sont chères. Faut que tous les continents, les pays soient, le plus possible de pays soient représentés. Donc nous aussi, on a notre fierté d'être sélectionnés. Donc ça a été mon cas donc depuis Athènes. Et effectivement, c'est chouette et on est très honorés d'être sélectionnés en tant qu'arbitre.
Thierry a une question pour toi.
Oui, bonjour. Le fait que ce soit à Paris, que ça, chez vous, en quelque sorte, est-ce que ça vous donne une pression particulière ?
Ah, une pression particulière ? Une fierté particulière, peut-être, de jouer à la maison. Pas particulièrement. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas parce que je suis français que c'était joué d'avance. Il faut dire aussi l'universalité. Le juge arbitre des Paralympiques, il sera indien. L'un des adjoints sera Afrique du Sud. Mmh. Je suis le seul français dans le staff de 8. Et donc, voilà, c'est on mesure la chance qu'on a. Après, sur la pression, ben, on fait le boulot comme d'habitude. J'aurai la chance de connaître les locaux, l'environnement, même si le décorum sera complètement différent, hein, de Roland-Garros 2 mois avant. Je connais l'environnement et puis certains rouages du stade Roland-Garros pour faire un peu mieux mon travail. Mais sinon, on va essayer de pas avoir de pression et d'absorber si pression il y a.
L'émotion, elle peut aussi être présente, évidemment, lors de la cérémonie d'ouverture, parce que Thierry va me corriger si je me trompe, mais les arbitres, les juges-arbitres, les entraîneurs prêtent aussi ce fameux serment olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Alors évidemment, vous êtes représenté, parce que sinon il y aurait une cérémonie d'ouverture à rallonge, mais j'imagine que participer à cette cérémonie d'ouverture, c'est aussi quelque chose.
C'est aussi quelque chose, effectivement, c'est bien de souligner que les arbitres prêtent serment comme les entraîneurs et les athlètes. Et alors, on défile pas, les arbitres ne défilent pas. J'ai eu la chance à certains moments à certains Olympiades de participer en tant que spectateur à la cérémonie d'ouverture. C'est magique, je repense à ceux de Pékin notamment. Et donc, ouais, c'est des émotions particulières. Il y a une espèce d'énergie sur les grands événements en général, quand on y participe, quelle que soit sa position, acteur ou spectateur, il y a une énergie particulière qui est décuplée quand il s'agit des Jeux Olympiques. Et à ce sujet, je souhaiterais dire effectivement qu'on regarde là, nous Français, dans l'actualité, les petits, on va chercher la petite bête de ce qui pourrait ne pas fonctionner, etc., des détails d'organisation, etc. Mais je vous prie de croire que voilà, quand on y est, quelle magie, quel entrain, et on a tous besoin de ça, de cette magie, cette fraternité, cette belle énergie. Je sais pas comment l'expliquer, mais quand on est sur ces sites olympiques, voilà, cette belle énergie qui nous porte tous, qu'on soit spectateur, qu'on soutienne son pays, ou qu'on soit acteur, ou bénévole, volontaire, etc. Donc c'est vraiment chouette.
Yann Cusack, juge arbitre de ces Jeux paralympiques cet été à Paris, est avec nous. Et cette question que je vais te poser, elle sera commune à d'autres invités qui seront avec nous. Mais le tennis, il a quand même une certaine caisse de résonance médiatique. Néanmoins, les Jeux olympiques, c'est une manière différente de mettre les sports en avant. Alors, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu attends comme retombée pour ton sport grâce à ces Jeux olympiques et paralympiques ?
Alors pour le sport, effectivement, il est très médiatisé, le tennis, il est structuré, etc. Les Jeux Olympiques constituent le cinquième tournoi du Grand Chelem tous les quatre ans. Donc c'est ce qu'on attend, c'est la ligne supplémentaire d'un record ou la ligne supplémentaire d'un titre pour les joueurs, les joueuses et les athlètes en l'occurrence qu'on connaît, donc voilà, c'est la magie des Jeux tous les 4 ans, le 5e tournoi du Grand Chelem. Par chance, le tennis a moins besoin que d'autres sports d'une mise en lumière, et c'est ça qui fait la magie des Jeux aussi, c'est la mise en lumière de multiples sports qui n'ont pas cette chance le reste de l'année. C'est les titres, tel joueur, tel athlète va-t-il battre tel record, etc. C'est ça qu'on regardera dans mon sport, le tennis.
Une question un peu annexe, parce qu'on t'a reçu en tant que juge-arbitre, mais tu es aussi, je le disais, speaker et maître de cérémonie sur des événements sportifs. Ces speakers, ces maîtres de cérémonie, j'aimerais que tu m'en parles en quelques mots, parce que ils sont un peu les invisibles de ces Jeux Olympiques, et pourtant leur rôle sera essentiel, notamment dans tout le domaine protocolaire.
Oui, alors les arbitres aussi, on est invisibles. Hein. Ce point commun, c'est des deux activités, c'est que voilà, on est au service des événements. Effectivement, dans mon autre métier, ça paraît un petit peu paradoxal ou à l'opposé, mais c'est speaker, donc on dit aux Jeux Olympiques, c'est le programme de présentation sportive, les annonceurs, on dit les présentateurs sportifs, les hommes et les femmes au micro qui effectivement présentent les athlètes sur les terrains et puis présentent les médailles. Le fait que le français soit langue officielle des Jeux grâce à Pierre de Coubertin fait qu'il y a des voix françaises. Alors à Paris, évidemment. Le français est la langue officielle suivie de l'anglais, mais donc il y a une sélection qui se fait actuellement de présentateurs sportifs qui officient eux dans leurs championnats du monde et grandes compétitions, et donc ils sont recommandés par les fédérations internationales au COJO, au comité de Paris 2024, pour être sélectionnés eux aussi pour être les voix des stades, et donc des super jobs effectivement pour ces speakers.
Des voilà. Jobs de l'ombre et qui évidemment sont précieux. Alors toi qui as participé à plusieurs Olympiades dans les coulisses, Yann, si tu devais extraire un souvenir, un moment marquant, que ce soit lorsque tu es allé, quand tu t'es baladé dans le village olympique, quand tu as officié sur une compétition, quel serait-il ce moment marquant ?
J'étais speaker, alors j'ai eu cette fonction de speaker aux Jeux Olympiques de Rio 2016, j'ai fait les cérémonies de médailles, de remise de médailles, des médailles de bronze, j'ai pris l'avion pour aller de Rio à São Paulo un jour et le lendemain pour Belo Horizonte, et on voyage à 15 dans l'avion avec les médailles et le policier en civil de la police brésilienne qui surveille les médailles avec un revolver dans la poche arrière, arrivé à l'hôtel à São Paulo. Il y a problème on est à 15 hein, avec les hôtes et les hôtesses qui portent les médailles le jour de la cérémonie. et il y avait un problème de chambre, et on m'a dit, Yann, ça te dérange pas de partager la chambre avec le flic de la police brésilienne qui avait le sac à dos banalisé avec les médailles de bronze du foot des filles et des garçons. Et donc j'ai passé une nuit à partager la chambre avec le policier qui avait essayé de fourguer les médailles de bronze dans le mini coffre-fort de l'hôtel Ibis de São Paulo. Et le lendemain, nous étions tous escortés, parce qu'on transportait les médailles, escortés dans un van qui nous emmenait au stade avec six motards, etc. Et voilà, on a fait ce protocole de remise des médailles. On se croit important parce qu'on est escorté, mais au retour, quand il n'y a plus de médailles à distribuer, on est dans les bouchons comme tout le monde. Donc, voilà, c'était les médailles qu'on protégeait, non pas le staff à l'intérieur. Donc voilà cette anecdote. Et puis la nuit, avec le flingue sur la table de nuit de ce policier de la police brésilienne qui surveillait les médailles de bronze des épreuves de foot. Pas mal, non?
Ah, pas mal, ouais.
Je la raconte très vite parce que voilà, faut aller vite, mais voilà, je pouvais broder encore un peu plus.
Ah ben, si on a l'occasion de te réinviter prochainement, peut-être que tu nous raconteras plus en détail cette interview. En tout cas, merci Yann de nous avoir accordé quelques minutes dans un emploi du temps que je sais aussi chargé. Et puis nous aussi, on a un emploi du temps chargé parce qu'il y a encore beaucoup d'invités qui vont se succéder au micro. Alors merci Yann d'avoir été notre invité.
À bientôt.
Destination JO sur Radio Plus.
Et sur Radio Plus, nous poursuivons notre émission spéciale Jeux Olympiques. On va remercier à nouveau Yann Cuisac, juge arbitre aux Jeux Paralympiques originaire de notre région, qui nous représentera donc dans ces métiers un peu de l'ombre et qui sont essentiels évidemment pour faire vivre la compétition. Nous sommes toujours en compagnie de Thierry pour co-animer avec moi cette émission et de Arnaud Cellier, chargé de mission au Comité Régional Olympique et Sportif des Hauts-de-France. À 91 jour des Jeux Olympiques, Arnaud Cellier, comment on se sent dans les coulisses du cross alors que justement la région, notamment au stade Pierre-Mauroy de Lille, va accueillir des épreuves des Jeux Olympiques?
Eh bien, on se sent relativement serein. Il faut savoir que les Jeux sont quand même très majoritairement organisés par le comité d'organisation des Jeux Olympiques à Paris. Le cross en tant que tel n'a pas un rôle décisif ou important dans cette organisation des Jeux. Nous, on est plus là pour relayer les différents dispositifs qui nous arrivent de Paris 2024. Alors, on peut penser évidemment à tout le programme de billetterie. On peut penser au relais de la flamme qui va passer dans tous les départements de la région Hauts-de-France. Voilà, on est serein et on fait confiance à Paris 2024 pour que tout se passe bien.
Alors je parlais tout à l'heure, et on l'évoquait avec Yann Cuisac, de l'impact de la médiatisation générée par les Jeux Olympiques sur les sports en général. Est-ce que réellement, parce que c'est un effet qu'on voit, mais est-ce que réellement ces Jeux Olympiques ont un effet positif sur les demandes de licence l'année qui suit une Olympiade ?
Oui, c'est sûr et certain. Il y a des disciplines. Alors, on a parlé du tennis juste avant. En effet, le tennis a sans doute pas besoin des Jeux Olympiques pour passer à la télé. Mais évidemment, on a tous des images d'escrime, de judo, des disciplines qu'on voit finalement une fois tous les 4 ans à la télé. Et évidemment, ça a un fort impact sur la prise de licence à la rentrée de septembre dans les clubs. Donc ça sera encore le cas après Paris 2024, c'est sûr et certain, parce qu'on va voir encore plus d'images, on va être encore plus sensibilisé aux exploits des sportifs français. Et donc oui, il faut s'attendre à un afflux de jeunes licenciés à la rentrée dans les clubs. Ouais.
Alors évidemment, cet afflux, on le voit en cas d'images marquantes, en cas d'exploits, de médailles d'or pour nos athlètes français. Imaginons une discipline qui s'écroulerait totalement sportivement et ça peut arriver. Est-ce qu'à l'inverse, on a moins de licenciés ces années mauvaises sur le plan des médailles ?
On n'a pas d'études là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que le programme télé pendant les JO fait qu'on voit en effet les disciplines qui marchent. Mm-hmm. On voit moins celles qui ne marchent pas ou celles où les sportifs français n'ont pas de résultats. Ce qui est sûr, c'est qu'un résultat aux Jeux Olympiques et des passages successifs à la télé, des épreuves en direct, puis après dans les différents journaux télévisés, ça a un impact positif. L'impact négatif, il est moins... moins visible.
Moins visible, moins perceptible. Et ces nouvelles disciplines qui arrivent aux Jeux Olympiques, on pense à l'escalade sur la précédente Olympiade. Cette année, il y a notamment le breakdance qui arrive.
Et le skateboard.
Et le skateboard, merci Thierry. C'est pas des disciplines qui nécessairement, selon les régions, alors là évidemment on va rester dans le cadre de la région des Hauts-de-France, mais il y a des clubs qui sont peu nombreux, il y a des clubs qui peut-être justement vont se développer grâce à ces disciplines. Comment on accompagne au niveau du cross le développement de cette discipline nouvelle qui nécessite un accompagnement, une structuration au niveau des clubs et des pratiques?
Alors c'est sûr que ces disciplines sont un peu moins structurées ou en tout cas n'ont pas la structure habituelle des autres sports olympiques. Donc le breakdance dépend de la fédération de danse. Le skateboard dépend, je pense, de la fédération de roller. Voilà, nous au niveau du cross, en tout cas à l'échelle régionale, on accompagne très globalement les disciplines sans faire forcément de focus sur telle ou telle discipline. Voilà, on a pas un suivi particulier de ces disciplines.
Vous entendez sans doute comme nous, Arnaud Cellier, ce débat qui pointe sur la France est-elle une terre de sport avec toutes les politiques publiques qui pourraient être menées évidemment pour favoriser le développement du sport et également l'émergence de champions. Est-ce que vous diriez que les Hauts-de-France sont une terre de sport?
Oui, oui, les Hauts-de-France sont une terre de sport sans aucun doute. Donc les Jeux de Tokyo en 2021, puisqu'ils n'ont pas eu lieu en 2020, c'était la première fois finalement que les sportifs de la région réunifiée participaient. Donc c'était environ 25 sportifs, c'est une médaille sur les Jeux Olympiques, c'est plusieurs médailles sur les Jeux Paralympiques. Donc évidemment, les Hauts-de-France sont une terre de sport. Et sur Paris 2024, on peut espérer avoir encore plus de sélectionnés et encore plus de médailles.
Thierry, je me tourne vers toi parce que je sais aussi que cette question justement de la pratique sportive dans les écoles, elle t'intéresse. Quel œil tu jettes là-dessus et quel œil jettent tes invités récents? Tu as reçu tout au long de ces derniers mois des athlètes qui ont des disciplines olympiques. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout cela.
Mais évidemment, j'ai reçu énormément de sportifs depuis quelques mois dans le cadre des Jeux Olympiques. On en a souvent parlé. C'est vrai que on regrette, et c'est globalement ce que je ressens en discutant avec mes invités, on regrette que la France n'ait pas plus, met pas en valeur plus le sport, que rien n'est fait pour qu'on développe le sport. Alors peut-être que Arnaud Cellier pour le cross me contredira, mais les sportifs que qu'on a reçus regrettent qu'on mette pas. Et on a souvent, très très souvent, partagé l'avis de Stéphane Diagana. J'en ai parlé plusieurs fois dans cette émission. Stéphane Diagana a proposé récemment, il a poussé 2-3 coups de gueule, hein, on peut pas appeler ça autrement, et il a proposé récemment que les élèves de collège, de lycée et aussi à la fac, à l'université, arrêtent les cours à partir de 16h, quelles que soient les études qu'on suit, pour justement pratiquer plus de sport. Parce que, et j'ai aussi reçu récemment un rapport de l'INSEE sur la pratique sportive dans le Hauts-de-France. Alors, c'est un rapport qui date de 2022, où on apprend que on a perdu des licenciés. Bon, il y a aussi la période Covid, hein, qui a fait que, et d'ailleurs tous les sportifs que j'ai reçus, les présidents de club, les entraîneurs m'ont dit ça pendant la période de Covid, on a perdu beaucoup de licenciés. Certains sont revenus, d'autres ne sont pas revenus. Alors donc Stéphane Diagana proposait qu'on arrête l'école à 16h pour pratiquer du sport. Évidemment du sport, mais aussi de la musique, du théâtre, enfin des activités culturelles. Mais lui, et je trouve cette proposition très très bien. Mmh. Et il faudrait qu'on ait vraiment cette culture du sport et qu'on change aussi l'image des sportifs. Ça, c'est quelque chose que je ressens, et y compris moi en tant que journaliste sportif. Quand je dis que je suis journaliste sportif, je me sens parfois vu différemment des autres journalistes, parce que on a l'impression que le sport, c'est quelque chose de secondaire par rapport à la société. On va avoir du respect pour un grand acteur, pour un comédien, pour un écrivain, et un peu moins pour les sportifs. Et ça, c'est 30 ans de pratique. Tu sais que j'ai commencé ma carrière à la Voix des Sports. c'est quelque chose que je ressens dans les relations que j'ai, quoi, avec d'autres personnes. D'ailleurs, on est la seule corporation chez les journalistes sportifs à préciser qu'on est journaliste sportif, ce que je trouve un peu ridicule parce qu'on est avant tout des journalistes. Et on a toujours l'impression que quand on regarde le sport, c'est du loisir, quoi. Alors que c'est une activité. On va en parler avec François Brisson qui est arrivé, qui nous attend dans la pièce à côté. Quand on est sportif, quand tu dis par exemple à l'école, plus tard je veux être sportif, t'es moins considéré que quand tu dis je veux devenir médecin.
Avant d'avoir une réaction d'Arnaud Cellier sur tout ça, Thierry, toi qui as reçu notamment récemment des équipes de breakdance, nouvelle discipline olympique, qu'est-ce que ces sportifs amateurs ici espèrent des Jeux olympiques pour leur discipline ?
Alors d'abord je tiens à préciser, parce que j'avais ce regard différent sur le breakdance qui pour moi était de la danse et non pas du sport, mais j'ai eu la chance et le devoir d'aller voir des compétitions, et c'est vraiment du sport, quoi, parce que c'est intense, c'est physique, et il y a aussi un gros travail. Et quand on parle d'un sport, d'un footballeur, d'un basketteur, on voit les 90 minutes ou les 10 secondes pour un sportif, mais c'est des années et des années de travail. Et ça, faut bien le garder à l'esprit. Et ces breakdancers m'ont épaté. Et puis, ils sont comme tout le monde. C'est la question que je pose toujours. Qu'est-ce que vous attendez de ces Jeux Olympiques? Est-ce que vous espérez, pour votre sport, une médaille d'or pour mettre en lumière, on en parlait tout à l'heure avec Arnaud, pour mettre en lumière son sport et avoir plus d'adhérents, plus de pratiquants, et attirer le regard des médias sur cette discipline. Et le président et la présidente de l'association Cohésion, qui est basée à Lens, et de Croustillant, voilà, je cherche le nom, Croustillant, qui est une association de race, espère ça. Alors peut-être pas une médaille d'or, parce que encore qu'il y a des chances en breakdance, il y a des chances que la France brille et remporte des médailles, mais ils espèrent ça, qu'on ait un autre regard sur le sport et sur leur discipline, évidemment.
En deux minutes, parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir dans cette heure, Arnaud Cellier, les attentes du CNOS et du CROSS Hauts-de-France sur ces Jeux Olympiques, quelles sont-elles ?
Alors, tout d'abord, c'est des Jeux réussis sur le plan de l'organisation. Je pense que ça, c'est plutôt bien parti. Évidemment, il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, les Jeux, je pense que seront grandioses. Et puis après, évidemment, on attend des médailles, puisque c'est ça qui va permettre de reconsidérer, on va dire, le sport par rapport aux propos qui étaient tenus juste avant. C'est vrai que le sport est parfois considéré comme une activité de loisir, mais justement, quand on écoute les parcours, les histoires des sportifs, on se rend compte de l'investissement que ça nécessite, des heures et des heures, des années de travail pour aboutir à leur niveau actuel et obtenir cette médaille d'or. Donc oui, on attend des médailles, et puis évidemment sur le volet Hauts-de-France, on espère que les sportifs des Hauts-de-France vont briller pour alimenter les clubs sportifs à la rentrée.
Toutes les qualifications ne sont pas terminées, mais on attend combien de sportifs de la région qualifiés pour ces JO en moyenne ?
Alors non, c'est vraiment en cours, et jusque quelques jours avant les Jeux, il restera des sélections. Voilà, actuellement c'est 5 sportifs officiellement qualifiés, 3 pour les Jeux Olympiques et 2 pour les Jeux Paralympiques. On espère 25 à 30 sportifs, je pense, de la région Hauts-de-France, Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques confondus.
Et on espère que tous feront effectivement briller la région. Vous restez bien avec nous, on est dans cette émission spéciale Destination JO jusque 13h avec dans quelques minutes d'autres invités qui vont nous rejoindre. On pense à François Brisson, à Joachim Marx ou encore Alex Stasiewicz qu'on aura par téléphone. Et là, je vous propose de vous plonger dans les JO autrement, au travers des retombées économiques. Et pour cela, on va s'intéresser à au point de vue du président du club hôtelier Lille Métropole, qui nous parle justement de l'accueil des publics, des touristes qui vont visiter la région à l'occasion des Jeux Olympiques, mais aussi de l'accueil des délégations sportives. Boris Delecroix était mon invité, une interview que nous avons enregistrée il y a quelques jours. Radio. Et à présent, dans notre émission spéciale consacrée aux Jeux Olympiques, on s'intéresse aux retombées économiques et touristiques des Jeux Olympiques de notre région. L'accueil des délégations sportives et des fans devrait sans nul doute booster les chiffres du tourisme, mais il y a également des sources d'inquiétude pour l'hôtellerie traditionnelle concurrencée par le tourisme locatif des particuliers qui proposent leur logement sur les plateformes internet. En fin d'année 2023, l'inquiétude planait également suite à l'annulation d'environ 20 000 réservations effectuées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Alors à moins de 100 jours du début des épreuves, comment se portent les réservations hôtelières dans la métropole lilloise? Quelles retombées attendre de ces Jeux Olympiques en région? On fait le point avec notre invité, le président du club hôtelier de Lille Métropole, Boris Delecroix, bonjour.
Bonjour Julien.
Alors le club hôtelier Lille Métropole, ça regroupe quoi exactement, Boris?
C'est très simple, ce sont un groupement de 94 hôtels qui sont sur l'ensemble de la métropole de Lille. Alors bien sûr majoritairement sur Lille, mais également sur les autres villes telles que Roubaix, Tourcoing, Neuville-en-Ferrin, Villeneuve-d'Ascq, Léquin. Donc on est vraiment représentatif du marché hôtelier lillois. Donc 94 hôtels, environ 8000 chambres, en sachant que sur la métropole il y a une centaine d'hôtels, donc on est, comme je disais, très très représentatif et majoritaire sur les hôtels. On a un rôle, bien sûr, comme je suis là actuellement avec vous, Julien, de développer des sujets sur d'actualité pour faire le relais des hôtels auprès des médias notamment, auprès des politiques également, de la métropole de Lille, et également l'agence d'attractivité Hello Lille. On est en lien très régulièrement avec eux, mais on a également un autre volet qu'on a fait depuis maintenant quelques mois, quelques années, c'est-à-dire qu'on fait également des formations auprès de nos équipes, auprès des équipes qui constituent les hôtels, sur la formation d'accueil, également la gestion du stress, l'accueil des clients étrangers, des formations en anglais, pour essayer de développer les aptitudes de nos collaborateurs et collaboratrices. On s'était mis ça comme mission après le Covid. Quand on avait des difficultés de recrutement, on s'était dit que ça devait être une bonne solution, une bonne idée pour fidéliser les équipes.
Alors on est à moins de 100 jours des Jeux Olympiques dans notre région. Est-ce que les indicateurs hôteliers sont au vert, Boris?
Alors ils sont pas au rouge en tout cas, j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont au vert, mais ils sont pas au rouge. On a des taux de réservation qui continuent d'augmenter semaine après semaine, donc c'est quand même positif, on va pas se mentir. En revanche, vous l'avez dit en préambule, la grosse annulation du COJO en décembre nous a mis quand même une petite crainte, une petite peur sur nos taux de réservation sur le mois de juillet-août. Après, il y a un paramètre quand même qui est à prendre en compte sur la métropole de Lille, c'est-à-dire qu'en juillet-août, c'est la période la plus calme de l'année normalement. Donc on sait qu'on va forcément mieux travailler que d'habitude, mais bon, on espère qu'on va vraiment, vraiment, vraiment mieux travailler et non pas juste un peu mieux.
Alors effectivement, il y a eu un couac en fin d'année 2023, le COJO, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, qui a annulé sur la métropole lilloise 20 000 nuitées. Alors c'est pas la seule région qui a été impactée par l'annulation de nuitées. Il y en a eu du côté de Châteauroux, je crois, qui accueille les sites des épreuves de tir. Est-ce que cette annulation massive, elle est comblée aujourd'hui tout d'abord?
Alors elle est pas comblée, mais je veux juste revenir sur ce que vous dites. C'était effectivement une grosse déception, mais on peut pas dire vraiment que c'est un couac, puisque c'était réglementaire. Dans le contrat, c'était ainsi. Ils avaient tout à fait le droit de relâcher ces chambres-là. Ça nous a impacté négativement, bien sûr, mais en tout cas, ils étaient dans leur droit. C'est clair que c'est pas encore comblé. Là, on était avant annulation du COJO sur l'ensemble des hôtels de la métropole de Lille à environ 45 et 50% d'occupation sur l'ensemble des journées de Jeux Olympiques. Là, on est plutôt de l'ordre de 37-38%. Donc voilà, c'est pas encore comblé. Mais en tout cas, c'est mieux que début janvier.
Alors cet événement, il va forcément attirer du monde. Et on imagine que cet équilibre entre l'offre et la demande va avoir un impact sur le prix des chambres. Est-ce que le prix des chambres mécaniquement va augmenter, et de combien en moyenne?
Alors naturellement, le prix sera effectivement plus élevé qu'une période de juillet-août habituelle sur la métropole. On n'a pas abusé sur les prix globalement, même si certains ont des politiques de prix vraiment très très élevées. C'est pas forcément le cas partout. Sur la métropole en tout cas, on est sur des prix qui peuvent être comparés à des prix de braderie. La braderie, c'est un élément de référence pour nous hôteliers, où on sait qu'on va bien travailler et les prix sont élevés, mais ça reste un public de loisirs. Contrairement à une période de congrès où là on sait que ça va être du public qui vient pour le professionnel et qui sera remboursé. Là, c'est du public loisir qui va venir majoritairement, avec bien sûr des journalistes, des officiels, mais en tout cas, il y aura une grosse partie de personnes qui vont payer, entre guillemets, de leur poche. Donc, on sait dans ces cas-là qu'il faut être raisonnable sur les prix, surtout que on a une concurrence maintenant qui est la plateforme, je ne sais pas si je peux le citer, mais la plateforme
Vous
Airbnb.
Vous pouvez.
La plateforme Airbnb qui est en plus partenaire officiel des Jeux Olympiques, donc c'est compliqué à un moment de se battre contre ça, qui propose forcément des établissements très différents des nôtres, puisque là c'est des logements entiers ou avec des cuisines, peut-être même des machines à laver, chose que nous hôteliers on peut pas proposer. Nous on insiste sur la qualité de l'accueil, la rénovation de nos bâtiments et également le fait que vous pouvez être accueilli 24/24 par un humain dans nos hôtels, chose qu'Airbnb ne propose pas.
Au quotidien, cette concurrence des plateformes de tourisme locatif, vous la ressentez aussi ou vous la ressentez un peu plus sur ce type d'événement qui draine du monde ?
On la ressent surtout quand ce sont des événements grand public. J'ai pris l'exemple de la braderie, on le ressent lors de la braderie, on l'a ressenti également lors de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Moi, je suis lillois depuis tout le temps, hein, et en 2016, je travaillais déjà dans un hôtel. Le 2016, on a eu l'Euro de football à Lille. Et les taux de réservation étaient vraiment étaient vraiment supérieurs à la Coupe du Monde de rugby. Et on sent l'effet Airbnb dans tout ça parce que le nombre d'hôtels sur la métropole n'a pas trop changé entre 2007 et 2023. Le stade de Pierre-Mauroy a la même dimension, hein, c'est toujours 50 000 personnes, ça change pas entre 2007 et 2023. Et on a senti lors de la Coupe du Monde de rugby une pression de marché très très différente de 2016 et qui était en partie à cause d'Airbnb, oui.
Je présume que ça fait partie des réflexions que vous avez au sein du club hôtelier Lille Métropole. Comment on atténue cette pression ? Comment est-ce que on innove pour faire face à la concurrence de ces plateformes ?
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la formation du personnel pour essayer vraiment d'accueillir le mieux possible les personnes qui vont venir, de monter en gamme nos hôtels avec des rénovations régulières et avec aussi un service personnalisé. Voilà comment on essaie de se démarquer. Après, il y a un volet plus politique hein, dans Airbnb, puisque le but quand même d'un centre-ville, ou en tout cas le but des centres-villes, c'est quand même qu'ils vivent avec des habitants. Et Airbnb, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le but, c'est de mettre des touristes de passage qui vont pas forcément s'approprier la ville et qui vont consommer différemment. Nous, dans nos hôtels, on a aussi des employés hein, qu'on fait vivre. On a des sous-traitants, on a des fournisseurs locaux. Airbnb, c'est tout l'inverse.
Alors justement, on va parler de ces emplois qui concernent le tourisme. Le tourisme dans la métropole lilloise, ça représente à peu près combien d'emplois ?
Alors c'est très simple, c'est 20% des emplois de Lamel, des emplois directs de Lamel sont liés au tourisme. Donc dans les hôtels, dans les restaurants, on a quand même 20% des employés de la métropole, donc c'est conséquent. On n'a pas prévu forcément d'augmenter nos effectifs durant cette période des Jeux Olympiques. On a plutôt décidé, comme je disais, de former nos équipes pour accompagner du mieux possible les touristes qui vont venir. Et on a aussi dû faire une politique un peu différente au niveau des congés par rapport aux années précédentes et décaler les congés plutôt avant les JO ou après les JO plutôt que fin juillet, début août.
Et tout ceci donc pour arriver à l'accueil des sportifs, du public, des journalistes, des officiels et de toutes ces personnes qui vont graviter autour du stade Pierre-Mauroy durant cette quinzaine. Alors est-ce que justement on arrive à dresser un portrait type entre guillemets du client qui vient pour ce type d'événement ? Est-ce que c'est forcément un client qui vient de loin ? Est-ce que c'est forcément un touriste étranger ? Est-ce qu'on arrive à déjà identifier tout ça ?
Alors pour l'instant en tout cas dans nos portefeuilles de réservation, c'est majoritairement des clients français qui ont réservé. Il va avoir dans quelques semaines une bourse de revente des places quand toutes les équipes seront connues. Alors là, on se dit que peut-être on aura des réservations un peu plus exotiques, peut-être des pays scandinaves quand après le tour préliminaire de handball. Hein, on sait que Danemark, Suède, ce sont des pays qui apprécient beaucoup le hand. Et puis finalement, c'est pas très loin de chez nous, que ça soit en voiture ou en avion. Donc voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est majoritairement français. Mais on se dit qu'une fois que toutes les équipes seront connues, on aura un peu plus de clients étrangers.
Alors c'est pas la première fois hein, que la métropole lilloise accueille des événements d'ampleur. L'Euro 2016, on en a parlé, l'événement le plus récent, c'était la Coupe du Monde de rugby en 2023. Quelle retombée suite à cet événement justement, Boris Delcroix ?
Alors la Coupe du Monde de rugby, c'était vraiment très très beau à vivre. Déjà, on parle de travail, enfin on parle de business et de retombées économiques, mais aussi le bonheur que c'est de recevoir ce genre d'événement sur la métropole. La ville et la métropole se mettent aux couleurs du rugby. Là, ils seront aux couleurs des Jeux Olympiques, donc c'est forcément des choses qui sont toujours très agréables. Sur la partie en tout cas Coupe du Monde de rugby, les retombées économiques ont été très intéressantes. On a eu des occupations qui étaient un peu meilleur par rapport à d'habitude, mais septembre-octobre, ce sont déjà des périodes fortes, hein. Ça, c'est important à prendre en compte. Donc, on a essayé, en fait, de faire en sorte que les clients restent plus de deux nuits dans nos hôtels pour la Coupe du Monde de rugby et pas juste vendre le soir du match. Ça, on l'a réussi sur quelques matchs, notamment les deux matchs de l'Angleterre où on avait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Les matchs de la France, le match de la France a été un peu plus calme que ce qu'on avait prévu. Mais en tout cas, voilà, sur les deux matchs de l'Angleterre, on sait que les Anglais se déplacent beaucoup. Hier soir, tous les hôtels étaient complets avec nos amis de Aston Villa, qui venaient de Birmingham. Mais voilà. Donc, ici à Lille, en tout cas, sur la métropole, on avait vraiment eu des belles retombées économiques avec des prix moyens qui étaient effectivement un peu plus élevés que d'habitude sur ces mois de septembre-octobre.
Est-ce que justement, il y a des objectifs chiffrés pour ces Jeux Olympiques?
Bah pas vraiment, parce que alors la métropole de Lille nous donne des chiffres de fréquentation avec plus d'un million de visiteurs, les billets vendus, tout ça. Nous, en tout cas, principalement dans nos hôtels, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été assez conservateur, puisqu'il y a un paramètre important, c'est qu'on n'a jamais vécu ça, en fait, hein, tout simplement. On n'a pas d'historique sur ça. La Coupe du Monde de rugby, l'Euro 2016, par exemple, deux événements qui étaient marquants au niveau activité sportive, c'était des matchs bien précis, sur des dates bien précises. Là, la différence, c'est qu'on a beaucoup de sessions de match sur plein de jours, donc on n'avait pas beaucoup de visibilité. Donc on sait qu'on va mieux travailler que des mois de juillet août habituels. La grande différence, là, va être est-ce qu'on va très bien travailler ou est-ce qu'on va bien travailler.
Boris Delecroix, président du club hôtelier de Lille Métropole, est notre invité pour parler donc des retombées économiques des Jeux Olympiques sur la métropole lilloise. Et même si une résidence olympique a été érigée à Villeneuve-d'Ascq, hein, pour les sportifs qui seront accueillis dans notre région, le parc hôtelier lillois va également, on l'imagine, accueillir un certain nombre de délégations et de sportifs. Alors, sans trahir de secret de vestiaire, est-ce que ça change quelque chose pour les responsables d'hôtel d'accueillir ces équipes? Et est-ce qu'il y a des exigences supplémentaires à accueillir ces champions?
Alors, vous avez tout à fait raison, Julien. Il n'y a que trois équipes qui ont décidé de ne pas loger au village olympique. C'est les équipes basket États-Unis filles-garçons et également l'équipe française de basket. Donc, ces équipes vont être logées dans deux hôtels. Bien sûr, vous en doutez, je ne peux pas donner les hôtels, mais en tout cas, je les connais. On va parler des États-Unis qui dorment dans un très bel hôtel du centre-ville de Lille. Sur la partie sécurité, clairement, on n'a jamais vu ça. On a eu des visites en amont, plusieurs visites en amont du RAID, du GIGN, de la police, enfin, en plus des visites de l'équipe de sécurité des États-Unis. Donc c'est vraiment impressionnant. L'hôtel sera privatisé. Le quartier sera pratiquement bouclé pour cet hôtel, donc c'est vrai que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Ils ont en plus choisi un hôtel en centre-ville, ce qui était un peu, on va dire, étonnant, parce que c'est toujours plus compliqué de sécuriser un hôtel en centre-ville qu'un hôtel en périphérie. Le choix qu'a fait l'équipe de France de basket, ça a été justement de prendre un hôtel en périphérie. C'est beaucoup plus simple, mais là, les États-Unis privatisent carrément un hôtel en centre-ville, donc c'est une belle gymnastique sécuritaire, mais c'est intéressant. Et puis nous, c'est important aussi, Métropole de Lille, de montrer qu'on sait accueillir ces événements et de se positionner aussi peut-être pour des événements futurs. C'est bien aussi de se positionner pour des événements futurs sur la métropole de Lille. On sait qu'on reçoit en 2025, le grand départ du Tour de France. Encore une fois, de la dynamique sportive, c'est très très intéressant pour la métropole et les retombées économiques.
Alors, il y a évidemment tout cet aspect sécuritaire à gérer, mais est-ce que le sportif est un client d'hôtel comme les autres ?
Oui, 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 il veut profiter des installations de l'hôtel, il veut se faire plaisir, il veut qu'on lui indique l'accès au stade facilement sans perdre trop de temps. Donc non, c'est un touriste assez classique. On montre en plus dans plusieurs études, hein, que les touristes viennent bien sûr pour le match de basket ou de hand là, pour les JO ou pour le rugby il y a quelques mois, mais ils viennent également pour la destination. Donc ça, c'est intéressant. On a pas mal de statistiques qui montrent que les gens viennent majoritairement pour le sport, mais également pour la destination et pour se faire plaisir en visitant la ville, en visitant la métropole. Et le but aussi, c'est de montrer une belle image de notre métropole pour que les gens puissent revenir un peu plus tard, voire même en allant un peu plus loin, en se disant que les clients français connaissent bien sûr Lille, de réputation, mais de leur faire vivre un bel événement sur place pour pourquoi pas revenir après en tant que en week-end ou alors pour faire un séminaire, une réunion, si toutefois les personnes veulent organiser, parce que il y a une petite particularité sur Lille, enfin sur la métropole de Lille, c'est que 65% des nuitées sont générées avec le tourisme d'affaires. Donc ça, c'est quand même important à prendre en compte, et c'est pour ça que nous, la période de juillet-août, on est très heureux de recevoir les Jeux Olympiques.
Et on ne doute pas que les retombées seront importantes. En tout cas, ça va être une belle fête qui sera proposée durant cette quinzaine, parce que les Jeux Olympiques, ça n'est pas qu'à Paris. C'est aussi pour certaines épreuves un peu partout en France. Et Lille a la chance, justement, d'accueillir les épreuves de hand et de basket, les épreuves masculines comme féminines. Alors, pour terminer, Boris, un volet plus personnel et sportif. Si je vous demande quel est votre premier souvenir sportif qui vous marque dans l'histoire des Jeux Olympiques, un exploit, une défaite malheureuse, vous me citez quoi ?
Là d'instinct, j'ai repensé à la victoire d'Usain Bolt sur le 100 mètres en 2008. C'était au JO de Pékin, je pense, à la radio, que j'ai vécu à la radio dans la voiture. J'allais chez un ami et j'ai mis une chaîne, enfin voilà, j'ai mis une radio et j'ai vécu sa victoire en 2008. En 9 secondes et des brouettes du Usain Bolt, et j'en garde un souvenir assez ému, et c'est le souvenir qui est venu directement quand vous m'avez parlé de ça, et c'était c'est impressionnant d'entendre ce qui m'avait marqué, c'était le débit de parole du commentateur sportif, du journaliste qui avait fait il racontait l'histoire aussi rapidement, je pense, que il la voyait sous ses yeux, et donc moi j'ai vécu ça à travers la radio, et c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, et voilà, je m'en rappelle toujours plus de pratiquement 15 ans après, quoi.
Et oui, c'était en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, l'année de tous les records d'ailleurs, cette année 2008 pour Usain Bolt, qui cette année-là avait enquillé les records du monde. Boris Delcroix, président du club hôtelier de Métropole, merci d'avoir été notre invité sur Radio Plus dans cette émission spéciale Jeux Olympiques.
Merci à vous Julien, bon après-midi.
Et la suite de Destination Jeux Olympiques sur Radio Plus, c'est à partir de 10h avec du très beau monde que nous allons recevoir dans quelques instants en studio. Il y a toujours Arnaud Cellier, chargé de mission au Comité Régional Olympique et Sportif. Nous recevrons également François Brisson et Joachim Marx qui sont avec nous en studio. Alex Stasiewicz sera également avec nous par téléphone. Et puis toujours l'inénarrable Thierry qui sera avec nous à partir de 10h pour la suite de cette émission. Encore beaucoup de souvenirs à évoquer, beaucoup de sportifs à recevoir, alors vous restez bien branchés sur Radio Plus 104.3 FM en DAB+ ou sur le www.radioplus.fr. À tout de suite.